Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Le 4 avril, des milliers de personnes se sont rassemblées à Saint-Denis pour dénoncer le racisme et notamment les insultes qui ont visé le nouveau maire Bali Bagayoko. Au-delà de l'élu LFI, de nombreuses personnalités ont été la cible d'insultes racistes ces dernières années. Les actes et insultes antisémites ont également explosé depuis octobre 2023 en France. Un racisme et un antisémitisme qui s'expriment sur les réseaux sociaux via des lettres anonymes reçues par certains élus, mais aussi parfois publiquement, et cela alors que 46% des Français ont été confrontés au racisme, affirme un sondage de la LICRA et de l'IFOP. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour Henri.
Bonjour.
Alors je voudrais d'abord vous faire écouter Éric Coquerel, député LFI et président de la commission des finances, qui a réagi aux propos polémiques dont Bali Bagayoko a été victime après son élection comme maire de Saint-Denis. C'était le 31 mars lors des questions au gouvernement.
La honte, oui, vous devriez être accablé de honte, vous, responsable politique dont plusieurs ici et médias qui avaient alimenté une campagne raciste et plus particulièrement négrophobe. Une campagne doublée de mépris de classe vis-à-vis d'élus issus de villes populaires et, le comble pour vous, insoumis ou assimilés par vous à France Insoumise. Bali Bagayoko a concentré tous vos tirs jusqu'aux saillies sur CNews, convoquant l'imaginaire raciste pour le comparer à un grand singe et la ville de Saint-Denis à une tribu primitive. Bali Bagayoko a concentré tous les tirs parce que maire de la deuxième ville d'Île-de-France, il se revendique héritier de l'immigration et du programme de rupture plébiscité par les électeurs. Parce que, par essence, vous l'estimez illégitime depuis votre supériorité construite de caste, de classe et consciemment ou pas de race, dont le système que vous perpétuez a inventé le concept pour asseoir sa domination et justifier l'esclavage et la colonisation. Oui, diffamer Bali Bagayoko en dénonçant sans preuve des accointances avec des dealers, c'est du racisme. Oui, cette campagne contre ces nouveaux maires et leur soutien fustigé pour quelques huées, pourtant si fréquentes en France lors des soirées électorales, c'est du racisme.
C'était donc le député LFI Éric Coquerel. Après les polémiques qu'il a essuyées, Bali Bagayoko a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Je vous propose de l'écouter.
Bonjour à chacun et chacun d'entre vous. Je sais que vous avez vu passer dans les médias et les réseaux sociaux un déferlement d'accusations mensongères et d'attaques médiatiques odieuses à mon encontre. Je sais que beaucoup de nos compatriotes sont consternés devant ce racisme débridé. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre eux, héritiers et héritières de l'immigration postcoloniale et ouvrière, le subissent dans leur quotidien et je voulais personnellement m'adresser à eux. Je souhaitais vous dire que vous avez pleinement votre place dans la République. Les propos racistes qui sont tenus dans les grands médias nous rappellent que le combat pour la liberté, l'égalité et surtout la fraternité n'est jamais acquis. Nous, vous, faites partie intégrante de la société française et c'est ensemble que nous devons tirer la République vers ce qu'elle a de meilleur.
C'était donc le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Écoutons également la réponse de Sébastien Lecornu à Mathilde Panot, qui dirige le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Elle l'a interpellé le 7 avril sur les insultes visant Bali Bagayoko. On écoute le Premier ministre.
Le racisme n'est pas une opinion et donc il doit être combattu à chaque moment et à chaque instant. Et c'est pour cela que j'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de se porter partie civile auprès et aux côtés du maire de Saint-Denis, justement, dans les démarches qu'il a fait. La justice est saisie et les enquêtes devront effectivement dire le droit. Mais vous voyez, sur la première minute de votre question, Madame la Présidente Panot, j'étais d'accord avec vous. Et puis au bout d'une minute, c'est plus fort que vous, vous avez joué de l'ambiguïté, laissant à entendre au fond que le gouvernement de la République pouvait être raciste, laissant entendre que celles et ceux qui soutiennent ce gouvernement pouvaient être racistes. Et je le redis avec beaucoup de force, vous participez à une banalisation du mal, vous participez à la banalisation de ce racisme, et c'est dangereux justement pour cette cause. Autre ambiguïté, Madame la Présidente, il ne peut pas y avoir de discrimination à la carte. Ce qui est abject pour le racisme est abject pour l'antisémitisme, pour l'homophobie, pour l'ensemble des discriminations. Car la République, c'est le refus de toutes les discriminations. C'est la différence entre le communautarisme et la défense de la République.
Henri Vernet, vous avez entendu ces trois déclarations. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc apporté son soutien à Bali Bagayoko. Comment analysez-vous cette séquence qui a commencé pratiquement le soir de l'élection du nouveau maire de Saint-Denis ?
C'est une séquence navrante, hein, c'est banal de dire ça, mais qui montre à quel point l'expression raciste existe, court toujours, j'allais dire, dans notre société et dans notre monde, donc y compris politique, médiatique, notamment par ce qu'on a pu entendre sur le plateau de CNews, hein, il faut nommer les choses, par un psychologue qui était interrogé à titre d'expert et qui a fait référence, enfin on le sait, ça a été assez dit, qui a fait référence au monde des primates, des grands singes, et puis le philosophe Michel Onfray, qui le lendemain, lui, parlait de loi tribale, de mâle dominant, enfin bref, autant de vocabulaire absolument odieux et qui ne laisse pas la place au doute. Hein. On a beau après venir se justifier, expliquer que mais non, on n'a rien compris. Non, ce sont des propos proprement, des allusions proprement racistes qui ont été employés, et ça, c'est intolérable. Donc, c'est détestable à ce niveau-là. Ça montre donc ce niveau de violence qui reste, de tension qui était liée à cette élection. Donc, il y a à la fois une lecture, j'allais dire, enfin, sociétale, hein, parce que, et ça dit aussi beaucoup donc, sur ce monde politique qui, aujourd'hui, instrumentalise de part et d'autre assez dangereusement ces thèmes-là. Et donc cette question du racisme et le contraire, hein, de l'intégration, du vivre ensemble, qui devrait pourtant aller de soi et faire l'objet bien davantage de, sinon de consensus, en tout cas vraiment de démarches et d'efforts communs.
Henri Vernet, il y a une réaction à ces propos racistes. C'est une marche organisée à Saint-Denis. Une autre marche est d'ailleurs prévue au mois de mai à Paris. Ça a été la bonne réponse ?
Oui, c'était une bonne réponse en tout cas. Il n'y a jamais la bonne réponse absolue, hein, quel que soit le sujet, mais c'était une bonne réponse. Ce que j'ai trouvé une bonne réponse également, c'est la réaction, l'extrait qu'on a pu écouter de Bali Bagayoko, qui est donc concerné, qui est lui visé par ces insultes racistes. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il y a une action judiciaire qui est engagée. On verra bien quels en seront les résultats. Mais la manière dont il répond, moi j'ai été frappé par les termes qu'il emploie. Héritier de l'immigration. Lui, il ne parle pas de raciser. D'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu, sauf erreur, employer ce terme-là, y compris quand dans son propre camp, les mentors comme Jean-Luc Mélenchon, comme Sébastien Delogu, hein, qui était le candidat LFI à Marseille, étaient venus le soutenir dans sa ville de Saint-Denis et avaient employé ce racisé en disant aux électeurs « Mais voilà, élisez quelqu'un comme vous, un racisé », ce qui finalement est une façon pour eux aussi de renvoyer, d'essentialiser les électeurs, les habitants de Seine-Saint-Denis, et c'est pas du tout la manière dont en parle Bagayoko lui-même. Il ne dit pas racisé, il parle d'héritier de l'immigration. Il fait d'ailleurs le lien aussi bien avec ses origines de l'immigration, et ça concerne aujourd'hui énormément de monde en France, hein, cette ascendance-là. Quand on remonte les générations, il y a toujours un étranger dans nos ascendants. Donc lui, il fait ce lien avec l'immigration, Bagayoko. Il fait également le lien, et ça c'est important, avec davantage, il met ça sur un plan de l'émancipation plutôt sociale, en parlant bien de l'origine ouvrière, populaire. Et c'est ça le lien. Et puis, il a une formule qui va dans le sens de l'apaisement quand il a dit, il s'adresse donc à ses nouveaux administrés en leur disant « Vous êtes tous de plein droit, de plein pied dans la République ». Et ça rappelle la formule de Jacques Chirac. Vous savez, vous êtes tous les fils et les filles de la République. C'était le message là aussi d'apaisement, de rassemblement qu'avait lancé Chirac au plus fort des émeutes de banlieue en 2005. Et donc, c'est plutôt sur ce terrain-là. Et alors, cette marche, oui, c'était une bonne réponse. Simplement, quand je disais pas forcément la bonne réponse, c'est que tout est politique, on l'a dit. Il y a à la fois la dimension complètement sociétale de cette affaire, et on viendra, j'imagine, à ce sondage qui fait un peu mal, hein, qui est sorti ces derniers temps. Mais quand je dis que tout est politique, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation. Et cette marche, c'était autant une volonté, de se rassembler sur des valeurs qui sont quand même essentielles en République. Donc le rejet total, sans ambiguïté du racisme, mais bien évidemment, il y avait aussi un aspect politique qui était une démonstration de force de LFI. Au rassemblement, il y avait certes du monde à Saint-Denis le 4 avril, mais il y avait la quasi-totalité était des côtés politiques, côté visage politique et de personnalité, étaient des insoumis, donc des LFI. Il y avait quelques communistes, mais comme socialistes, par exemple, on n'a guère vu que le président PS du département, Stéphane Troussel. Pas de membres du gouvernement. Alors, la raison invoquée, ça a été non, c'est la société civile, c'est pas à nous d'être là. Sincèrement, j'en suis moins sûr. Par exemple, c'est vrai qu'on a reproché, enfin certains, on reprochait l'absence d'Aurore Berger, qui est la ministre chargée des discriminations, donc des égalités, mais de la lutte contre les discriminations. Peut-être qu'elle aurait pu être là. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi comprendre son absence, dans la mesure où justement LFI avait fait de cet événement une occasion, une démonstration de force, et donc avait politisé l'enjeu à un tel point qu'on peut comprendre aussi que ça n'a évidemment pas encouragé d'autres forces politiques à se rendre sur les lieux.
Henri Vernet, on a entendu le Premier ministre rappeler qu'en France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il a fallu deux lois pour condamner les auteurs de propos racistes. La loi Pleven en 1972 et la loi Guesso en 1990. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte les législateurs ont décidé de réprimer le racisme ?
Oui, ce sont deux lois fondamentales et à chaque fois, en effet, le contexte expliquait beaucoup l'action du législateur. Alors, pour la loi Pleven, donc, on était encore à l'époque, quelques années après la décolonisation de l'Algérie. Et c'est aussi cette période où justement sont arrivés beaucoup de travailleurs immigrés originaires alors d'Algérie, d'autres pays du Maghreb et de pays subsahariens. C'était un phénomène assez nouveau à l'époque et donc il y avait beaucoup de tensions et d'actes racistes et violents. Dans la société, cette question se posait de façon toujours plus importante, quoi. D'où la nécessité de cette loi. Et la loi Pleven, elle a établi très clairement que, en effet, le racisme, les actes racistes, les paroles racistes ne relèvent pas d'une opinion, donc un droit d'expression quelconque, mais bel et bien d'un délit. Et ça, c'est fondamental. Ça reste encore aujourd'hui un outil primordial dans la lutte contre le racisme en France, dans l'arsenal juridique et judiciaire dont peuvent se prévaloir tous ceux qui sont victimes de racisme. La loi Guesso va arriver alors une vingtaine d'années plus tard, 1990, et la loi Guesso, là, elle aussi, elle est vraiment le produit de son temps et une réponse à un phénomène extrêmement grave qui se passait dans ces années-là, de la part de l'extrême droite, qui était le phénomène du négationnisme, c'est-à-dire qu'on remettait des historiens ou prétendus tels, avec de prétendus arguments scientifiques, remettant en question notamment l'existence des chambres à gaz et le massacre pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis dans les camps de la mort de quelques 6 millions de juifs. Il y avait également, on se souvient, du dérapage totalement odieux d'un Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, détail de l'histoire. Enfin, il y avait cet état d'esprit et c'est vrai d'ailleurs que dans ces années-là, donc les années 80, correspondait également à un certain essor, un premier essor, on peut le dire, important du Front National, l'ancêtre du Rassemblement National, avec d'ailleurs des résultats dans certaines municipalités qu'on voyait arriver pour la première fois.
On se rappelle de Dreux, notamment.
Exactement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la loi Guesso est venue poser qu'il y a des limites dans ce qu'on peut dire, finalement, dans ce qu'on peut écrire, dans ce qu'on peut prétendre, avec ce délit de négationnisme, de révisionnisme historique.
Et des personnalités comme Éric Zemmour voudraient remettre en cause ces lois s'ils parvenaient au pouvoir.
Oui, c'est un projet, c'est quelque chose qui est avancé, c'est-à-dire au nom de la liberté d'expression, revenir sur de tels interdits. C'est une loi, hein, donc ce que le législateur a fait, rien n'empêche qu'un nouveau législateur, qu'un nouveau pouvoir le défasse ou le fasse évoluer. Donc c'est une possibilité. Il faut voir d'ailleurs que ça rappelle le discours, vous savez, du vice-président J.D. Vance, hein, son premier discours quand après l'arrivée et l'installation au pouvoir de l'équipe Trump, il y a un an, son premier discours aux Européens à Munich, ça avait été de dire que, en Europe, hein, dans nos pays, donc la France, l'Allemagne, bref, dans tous, à ses yeux, les vieux pays européens, en quelque sorte, on briderait la liberté d'expression, donc on bâillonnerait les gens, et tout ça est cohérent, hein, avec, en effet, des, disons, des néoconservateurs à la Éric Zemmour.
Henri Vernet, on a longtemps employé le mot « diversité » pour parler des élus français dont les parents sont issus de l'immigration. Ces élus sont désormais plus nombreux et plus visibles. Députés, sénateurs, maires, ministres. Avant Bali Bagayoko, des députés ont été la cible d'injures racistes ces dernières années. Daniel Obono a été victime de caricatures racistes. En 2022, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, Carlos Bilongo Martens a été la cible d'un cri qu'il retourne en Afrique, un incident qui a été largement condamné. Prisca Thévenot a elle aussi reçu des messages racistes. Dans le passé, Christiane Taubira a été victime d'insultes racistes. Comment analysez-vous ces attaques qui visent des personnalités non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont? Qu'est-ce que cela nous dit de notre époque ?
Ça dit de notre époque qu'il y a ce qu'on appelle la parole décomplexée, quoi, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus. En plus, décomplexée, c'est un mot. Alors, c'est le mot qui est souvent employé, mais personnellement, il me gêne un peu, parce que décomplexé, ça devrait plutôt être quelque chose d'assez positif. Et en l'occurrence, là, non, ça veut dire qu'on ne retient pas sa pensée profonde. On exprime littéralement, donc, des paroles racistes, des insultes absolument insupportables, des horreurs, hein, voilà, verbales, on peut le dire tout simplement. Des gestes aussi, hein, parce que quand vous citiez Christiane Taubira, il y avait eu notamment une scène. Alors, vous savez, il faut le rappeler, c'était elle qui portait le débat sur le mariage pour tous, notamment le mariage homosexuel, en quelque sorte. Et évidemment, ça avait soulevé beaucoup de passion dans la société d'un seul coup. Et comme c'était elle qui, finalement, l'incarnait et qui avait défendu cette loi dans un débat qui avait été quand même très long à l'Assemblée nationale, au Parlement de manière générale, elle avait vraiment essuyé toutes les attaques frontales. Et il y a même eu des moments où on lui a tendu des bananes dans des déplacements publics. C'était quand même il y a déjà quelques années. Donc vous voyez, cette espèce de décomplexion dont on parle, ça remonte à pas mal de temps. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est aussi le fruit de cela, entre les lois Pleven et puis Guesso dont on parlait, ce qui s'est passé, c'est aussi l'explosion des réseaux sociaux, où vraiment cette espèce de libération de la parole la plus abjecte, hein, des gestes les plus inadmissibles. Donc ça dit une société qui n'est plus aussi soucieuse de ses valeurs, et notamment de ce qui devrait faire son vivre ensemble. Alors après, il faut quand même aussi se garder de généraliser les choses. On voit aussi quand même que les Français, que la société française est plutôt attachée à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme. Donc il y a quand même des choses qui se font, qui progressent, évidemment pas assez vite, mais enfin, ce sentiment-là, il existe aussi.
Et en même temps, Henri Vernet, on a évoqué ce sondage de la LICRA avec l'IFOP, le racisme touche pratiquement une personne interrogée sur deux.
Presque une personne interrogée sur deux, ce qui en effet est énorme. Alors que quand on dit le racisme, moi j'ai regardé cette étude, j'ai écouté aussi Mario Stasi, hein, le président de la LICRA, qui en expose la raison d'être, hein, pourquoi est-ce que son organisation avait demandé ce sondage à l'IFOP. C'est à la fois les actes racistes totalement insupportables, hein, des violences qui malheureusement sont encore très très présentes, mais c'est également le racisme quotidien, c'est c'est cela aussi que dénonce, c'est pour ça qu'on a un tel taux. On voit d'ailleurs que les premières victimes, c'est d'abord des expressions, enfin des insultes, des moqueries tout simplement parfois, qui sont liées en premier lieu au phénotype. Hein. Alors le phénotype, c'est-à-dire c'est l'apparence qu'on a, vous et moi, la couleur de notre peau, enfin vraiment ce qui pourrait-on dire saute aux yeux. C'est ça la première raison. Et donc les premières victimes, montre ce sondage, eh bien ce sont les Noirs, ce sont personnes qui pourront de type arabe, c'est vraiment ça. Après, vous avez donc dans cette étude les actes et les paroles liées à la religion. Et donc là, ce sont les musulmans qui sont les premières, enfin en termes de pourcentage, hein, qui sont les plus victimes. Et puis les juifs. Donc la religion attire aussi l'exclusion raciste. Donc ce que ça dit, c'est surtout ça, c'est la banalisation du racisme. C'est par exemple les comportements que peuvent avoir vos camarades de classe, hein, mais également des enseignants qui vont vous balancer une bonne petite brimade, une moquerie, sans forcément d'ailleurs se rendre compte à quel point ça peut être blessant, à quel point ce sont des choses qu'on enregistre, qui restent, qui peuvent marquer dans la vie. Ce sont toutes les stratégies qui sont décrites des victimes de racisme pour justement se prémunir de ça. Donc ce qu'on appelle les stratégies d'évitement, bah, ça veut dire que par exemple, vous avez des gens qui en raison de leur couleur de peau ou de leur religion supposée être connue, vont se montrer le plus discret possible en classe et puis plus tard à l'université, ou vont même éviter certaines rues, vont éviter de porter des signes de la religion à laquelle ils pourraient néanmoins tenir. Ils vont éviter, alors ça c'est aussi très frappant, ils vont éviter par exemple tout contact avec les forces de l'ordre. Alors évidemment, sauf quand les forces de l'ordre viennent à eux, et là aussi on voit que le racisme est quelque chose d'extrêmement présent dans notre société, parce que eh ben, quand vous avez certaines couleurs de peau, certaines apparences physiques, je reviens là au phénotype, eh ben, vous êtes beaucoup plus susceptible d'être contrôlé.
Ce qu'on appelle
d'être
le contrôle au faciès.
Exactement, et le contrôle au faciès, pourtant ça fait des années et des années que c'est un sujet qui est signalé, qui fait l'objet d'efforts politiques pour cesser cela. Eh bien non, ce sont des choses qui durent encore. Bref, ce que fait apparaître ce sondage et qui est un peu désespérant, c'est à quel point ce racisme est diffus, large dans la société et reste présent.
Henri Vernet, tout à l'heure, on a entendu le Premier ministre Sébastien Lecornu refuser un antiracisme à la carte. Il a souligné qu'on doit lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme en même temps. Je voudrais vous faire écouter Valérie Pécresse. C'était lors du Conseil régional d'Île-de-France. La présidente de la région s'adressait à Julie Garnier, une élue LFI.
J'aimerais bien, Madame Garnier, que votre lutte contre le racisme soit un antiracisme universel. J'aimerais bien que votre lutte contre le racisme soit aussi une lutte contre l'antisémitisme. J'aimerais bien que quand Monsieur Mélenchon bafouille, parce qu'il bafouille beaucoup lui aussi, eh bien j'aimerais bien que quand il bafouille, ce soit pas toujours à sens unique. Voilà ce que je voulais vous répondre, Madame Garnier. Vous pourrez toujours calomnier et vous pourrez toujours caricaturer, mais ici à la région de France, nous luttons contre tous les racismes.
Henri Vernet, on vient d'entendre Valérie Pécresse. Est-ce que le grand échec de ces dernières années, ça n'est pas la difficulté à faire vivre le modèle républicain et universaliste ?
Avant, c'est vrai que souvent, on mettait en avant ce modèle intégrationniste, hein, à la française, qui s'oppose au modèle anglo-saxon, où en gros, toutes les communautés cohabitent, coexistent, et puis voilà, et ça marche comme cela, que ce soit à Londres, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il y a vraiment une espèce chacun vient et maintient son mode de vie. En France, on a toujours voulu, avec la République, avoir justement ce côté, c'est d'abord la République, d'abord les valeurs auxquelles toute la nation adhère, et c'est vrai que c'était beaucoup mis en avant. Alors sans forcément que ce soit toujours respecté non plus, mais c'est vrai qu'un Jacques Chirac par exemple mettait beaucoup cela en avant. J'ai cité tout à l'heure l'adresse qu'il avait eue envers les jeunes des banlieues en parlant des enfants de la République. Il avait également mis en garde contre tous les extrêmes. Il avait fait de la lutte contre l'extrême droite avec son discours longtemps qui a été raciste de manière totalement ouverte, hein, quand c'était l'époque de Jean-Marie Le Pen. Donc il luttait contre ça. ça. J'entendais d'ailleurs, à l'occasion de toute cette explosion à laquelle on a assisté après les élections municipales, Kofi Annan, vous vous souvenez, qui avait été ministre sous Mitterrand, puis qui était le maire d'un petit village de 200 habitants en Bretagne, donc avant de devenir secrétaire d'État. Il était togolais d'origine, et donc c'est vrai que longtemps il avait fait figure d'intégration, donc au tout début des années 90. Eh bien, il rappelait que tout au long de ces années, lui-même avait été victime d'insultes racistes. Il recevait des lettres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais il était insulté en permanence. D'autres, en revanche, le félicitaient et l'encourageaient. Mais disons que ça a toujours existé. Mais justement, dès qu'il y avait quelque chose, il s'agissait de descendre, de rassembler et d'essayer de le combattre. Mais comment ? Est-ce que le modèle républicain, bah, ce serait pas aussi une promotion beaucoup plus importante des jeunes, des gens en général, issus des quartiers, issus de la diversité, donc pour reprendre ce mot, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les milieux économiques de manière générale. Aux États-Unis, il y a vraiment eu des politiques, des actions de discrimination positive extrêmement importantes. En France, la question s'est posée à plusieurs reprises, y compris ces dernières années, à un moment, avec Emmanuel Macron. Et puis à chaque fois, cette solution de discrimination positive a été écartée. Est-ce que pourtant, il ne faudrait pas y songer sérieusement pour installer, pour garantir une place importante à la hauteur de ce que cette diversité représente sur un plan démographique, tout simplement, dans notre pays, pour qu'elle trouve l'expression équivalente dans la politique, dans les médias, dans les entreprises avec des rôles importants. Ça reste une question posée. C'est pour ça qu'un Bali Bagayoko, quand je citais ses propos tout à l'heure, c'est là que c'est intéressant et ces nouveaux maires qui arrivent, c'est vrai que à eux de montrer dans leur ville comment on peut agir. Et pour un Bagayoko, c'est important parce que il se retrouve désormais à gérer après Paris, la ville la plus importante d'Île-de-France, hein, quelques 150 000 habitants. Donc tout cela, ça va faire des laboratoires assez importants. Donc tout ça est à suivre. C'est un combat assez permanent. Là, tout à l'heure, on parlait de cette enquête sur le racisme en France. Par exemple, il y a un grand plan contre les discriminations, un plan sur 3 ans, renouvelable, sauf erreur, qui avait été lancé donc, par la première ministre à l'époque, c'était Elisabeth Borne, et qui supposait tout un tas d'actions, y compris à l'école, au sein de l'administration, des signalements, de la formation dans le public, dans le privé, bref, vraiment conscientiser, si on peut dire, les citoyens à ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on constate 2 ou 3 ans après ? Qu'en réalité, au niveau des différents ministères, au niveau des administrations qui auraient été qui sont chargées normalement de mettre en œuvre ces politiques, rien ne bouge réellement.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.